À 8h23, eh bien ce procès, on en parle encore avec vous, Frédéric Couteau, bonjour.
Oui, bonjour Alexis, bonjour à tous.
C'est la revue de presse et à la une justement, cette question, Salah Abdeslam va-t-il parler ?
L'Europe entière, si ce n'est le monde, sera pendue ce lundi à la parole d'un homme, point de libération, celle de Salah Abdeslam, donc 28 ans, seul survivant des commandos terroristes ayant frappé Paris en novembre 2015, jugé durant une semaine à Bruxelles pour une infraction connexe au dossier des attentats, à savoir sa participation à une fusillade contre des policiers. Intervenu en pleine cavale le 15 mars 2016. Salah Abdeslam peut faire de cette audience un rare moment de justice, relève le journal. S'il accepte de se livrer, ce sera la fin de près de 2 ans d'un mutisme choisi pour protester contre ses conditions de détention, parmi les plus sévères donc de l'histoire contemporaine. S'il se tait, en revanche, option toujours fortement pressentie, la présidence de la 90e chambre correctionnelle du tribunal francophone de Bruxelles a d'ores et déjà fait savoir que le procès serait écourté. Le journal de la Haute-Marne s'interroge également. Le procès de Salah Abdeslam qui s'ouvre aujourd'hui à Bruxelles a-t-il des chances de nous fournir les tenants et les aboutissants du massacre du 13 novembre 2015 ? Beaucoup l'espèrent, mais rien n'est moins sûr. Depuis son arrestation en mars 2016, l'homme s'est enfermé dans le mutisme. Hypothèse optimiste, Abdeslam se met à parler au tribunal. Hypothèse plus pessimiste et sans doute plus réaliste, il ne lâche rien. Ce procès permettra peut-être, ne serait-ce qu'à la marge, conclut le journal, d'avancer un peu sur le chemin de la vérité.
Et puis autre question, Frédéric, quand se tiendra le procès des attentats de Paris ?
Réponse du Parisien, en 2020, au minimum, plus de 225 tomes de procédure, des dizaines de milliers de procès-verbaux d'audition, 2600 parties civiles, précise le journal. Depuis plus de 2 ans, les 6 juges antiterroristes en charge du dossier œuvrent à reconstituer les moindres ramifications du réseau djihadiste responsable des attaques du 13 novembre. Ce travail de fourmi qui vise notamment à établir les fortes connexions, dit le procureur Molins, entre les attentats de Paris et Bruxelles. Ce travail de fourmi a conduit à la mise en examen d'une quinzaine de personnes. 7 sont en détention provisoire en France, 5 en Belgique et 3 visés par un mandat d'arrêt. Il devrait s'achever au printemps 2019 pour un procès espéré à l'horizon 2020.
À la une également de la presse, la visite en Corse d'Emmanuel Macron, elle démarre demain mardi, mais déjà le bras de fer entre le chef d'État et les nationalistes est engagé.
Oui, Emmanuel Macron est prévenu, relève le Figaro, les nationalistes corses ne veulent renoncer à aucune de leurs revendications. Ils l'ont montré à Ajaccio samedi où les manifestants, 5000 selon la police, plus de 20000 selon les organisateurs, ont déambulé dans le calme avec pour mot d'ordre démocratie et respect pour le peuple corse. Une démonstration de force réussie aux yeux des dirigeants nationalistes qui avaient surtout pour but de mettre la pression sur le président de la République. Alors attention, prévient le Figaro, entre Emmanuel Macron et les nationalistes insulaires. Le dialogue est lesté, biaisé par un profond malentendu. Si le chef de l'État est disposé à donner davantage de liberté aux collectivités territoriales en général, c'est pour favoriser leur développement économique, leur donner les moyens de réussir, en s'adaptant au mieux à leur contexte. Ce nouveau pacte girondin, énoncé d'ailleurs durant sa campagne présidentielle, pourrait s'appliquer au cas par cas, mais sans distinction géographique inscrite dans la loi fondamentale. Les représentants autonomistes et indépendantistes corses sont eux dans un tout autre état d'esprit, relève le Figaro. Leur discours est d'abord politique. Le droit à la différenciation doit s'étendre à la prise en compte de leur langue, de leur insularité, de leur identité dans les institutions françaises, au traitement aussi de leurs prisonniers. Autant d'exigences qui, si elles étaient satisfaites, ouvriraient la porte, pointe le Figaro, à plus ou moins long terme, à un scénario à la catalane. Les nationalistes corses s'en défendent, certes, mais la clairvoyance commande, conclut le journal, la plus grande vigilance.
Et toujours à propos de la Corse, Frédéric, à lire dans Libération cette longue interview de Jean-Claude Casanova, c'est l'ancien conseiller du Premier ministre Raymond Barre, ex-président de la Fondation nationale des sciences politiques. Il dirige la revue libérale Commentaire. Il est aussi natif d'Ajaccio et d'ailleurs il a conservé des liens étroits avec la Corse.
Oui, il semble que le président veuille modifier l'article 72 de la Constitution qui concerne effectivement le droit commun des collectivités, note Jean-Claude Casanova. La Corse pourrait être spécifiquement mentionnée et traité dans cet article. Personnellement, affirme-t-il, je n'y verrai aucun inconvénient, mais le chef de l'État ira-t-il jusque-là ? Je l'espère. Par ailleurs, poursuit Jean-Claude Casanova, c'est pour toutes les régions françaises que j'espère plus d'autonomie et plus de singularité. Ce sont la centralisation et l'uniformisation qu'il faut combattre en Corse comme ailleurs. En revanche, Jean-Claude Casanova met en garde contre certaines revendications des nationalistes, comme la co-officialité de la langue corse, et il insiste surtout sur le développement économique de l'île, avec cette question: comment maintenir l'identité corse dans une économie livrée au tourisme? Cette dernière est souvent une économie de domestication qui transforme la population locale en employés des visiteurs. Il faut mener, conclut-il, une intense réflexion pour tirer profit du tourisme, qui restera longtemps la principale ressource de l'île, et en même temps préserver la Corse de l'aliénation que ce tourisme entraîne.
Enfin, Frédéric, il fait froid en France avec cette fois-ci des températures négatives pour la semaine.
Oui, ce qui inspire à l'Union ce commentaire: le froid revient comme pour nous donner une petite claque et réveiller les consciences. Pour beaucoup, il suffira de monter le chauffage, de sortir gants et bonnets. Pour d'autres, encore trop nombreux à dormir dehors, à galérer pour trouver un logement d'urgence, la semaine sera une épreuve de plus. Pourtant, rappelle l'Union, le candidat Macron avait promis que plus personne ne dormirait dans les rues d'ici la fin de l'année 2017. Promesse impossible à tenir tant que les moyens supplémentaires ne seront pas mis sur la table. Cette belle phrase, conclut l'Union, cette belle phrase restera lettre morte.